Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien sûr, et pour vous parler de ballon rond. On commencera aujourd'hui avec le Stade de Reims, de retour en Europe, 57 ans après les riches heures du grand Stade de Reims, de Copa et Fontaine, qui alors défiait le Real Madrid. Les Rouges et Blancs rejoueront en Ligue Europa, un premier barrage à Genève, en espérant mieux. Le club revient de loin, il se reconstruit pas à pas, et le président des Rémois nous en dira plus dans quelques instants. L'Olympique lyonnais en pleine transition entre un parcours européen épatant et un début de championnat hésitant. Où vont les Lyonnais, contraints à une cure d'amaigrissement de leur effectif? Pourront-ils reconquérir l'Europe l'an prochain? Bertrand Traoré sur le point de filer à l'anglaise. L'international burkinabé va quitter l'OL au bout de 3 saisons. Quel bilan tirer de ces années lyonnaises à la veille d'un nouveau rebond? Qui est en pointillé encore à 7h, et surtout où en est Bertrand Traoré à tout juste 25 ans. Et puis d'un Burkinabé à un Camerounais, l'avenir d'Éric Choupo-Moting se dessinera loin du Parc des Princes. Le héros de PSG Atalanta préfère aller jouer ailleurs. Et tous ces sujets, nous en parlerons eh bien, avec nos invités du jour. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Vous êtes là avec nous?
Bien sûr.
Présent.
Plus que jamais.
Dans notre studio. Bonjour Hervé Penaud, notre confrère de l'équipe.
Ah bah présent, mais et un bonheur d'être en votre compagnie.
Tout va bien.
Bonjour oui. À tous les auditeurs.
Vous arrivez
évidemment.
De Montpellier.
De Montpellier. J'étais à Montpellier pour voir nos amis lyonnais, mais pas Bertrand Traoré.
Ouais, on en parlera de vos amis lyonnais. Et puis Xavier Barré là aussi. Bonjour Xavier.
Oui, bonjour Annie. On est là. Plein de bons sujets encore.
David Filzel m'a aidé justement à sélectionner ces bons sujets aujourd'hui avec Pierre Guérin. Laurent Salerno est à la réalisation à Radio Foot. C'est parti.
Allez les gars, allez, les rouges et blancs, ce soir nous allons chanter. Allez les gars, allez, les rouges et blancs, ce soir nous allons gagner. Le Stade de Reims ne doit pas mourir.
Surtout pas, et ça fredonne même dans le studio. Pourtant, c'était un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, le temps où le Stade de Reims jouait encore dans le Stade Vélodrome de Reims et se distinguait sur la scène européenne et française. Entre 49 et 62, ce club de Reims remporte 6 fois le championnat, plus 2 Coupes de France. Le temps aussi où l'équipe était emmenée par Raymond Coppa, Juste Fontaine et entraînée par Albert Batteux. Il y a 57 ans, les Rémois disputaient donc leur dernier match européen face au club des Pays-Bas, le Feyenoord Rotterdam.
De eerste wedstrijd dan in de kwartfinale om de Europa Cup tussen Feyenoord en Reims. Champagne tegen de tulpen. En wat wij hier vanavond, althans het laatste kwartier in dit stadion,
ça parle donc hollandais, néerlandais.
Oui. Et on comprend tout.
On a compris l'essentiel.
Polyglotte
même. C'était donc un quart de finale de la Coupe d'Europe en mars 63. Reims éliminé. Et Reims, après bien des hauts et des bas, rejouera donc un match européen demain soir en Suisse face à Servette. C'est à Genève. À Genève où nous retrouvons tout de suite le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. Bonjour, Jean-Pierre Caillot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot International. Vous êtes déjà en Suisse, prêt à aller suivre votre équipe, bien sûr.
Oui, bah écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous. On vient d'atterrir il y a quelques instants, donc on est vraiment dans du direct.
Oui. Alors, vous êtes à la tête du club depuis 16 ans. 16 ans pour renouer avec l'Europe, alors que vous avez déjà ramené ce club dans l'élite de la Ligue 1 après 33 ans d'absence. C'était en 2012, si je me trompe pas. Alors, j'imagine que ramener Reims sur la scène européenne, c'était votre rêve ou aussi votre but?
Bah écoutez, évidemment, quand on a repris ce club dans l'état où il était, comme vous le rappelez, on a la chance d'avoir un des plus beaux palmarès du football français, mais on a aussi eu le malheur d'aller très bas et de repartir en division d'honneur, donc on l'a reconstruit étape par étape. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la tête de ce club, j'avais une ambition, c'était de le ramener en Ligue 1, mais très honnêtement, c'était pas spécialement de retourner en Europe. Et puis au fil du temps, et avec le travail qu'on réalise, que ce soit au niveau du recrutement, au niveau de la formation, on s'est dit que on devait écrire un petit peu notre notre chemin et que une qualification au niveau de l'Europe par l'intermédiaire d'une coupe, parce qu'évidemment on n'a jamais imaginé y aller via la Champions League, on n'est pas devenu fou, rassurez-vous, pourrait peut-être se faire. Bah, c'est pas par l'intermédiaire d'une coupe, mais c'est par l'intermédiaire de la sixième place qu'on se retrouve aujourd'hui à revenir en Europe, comme vous l'avez rappelé, 57 ans après. C'est tout un symbole.
Comment se présente cette rencontre? Alors, on est dans la saison du 90e anniversaire du club, fondé en 1931. Comment se présente cette rencontre? On sait c'est un barrage, match unique. Il y a des absences, en plus, comme votre capitaine, le patron de la défense, Younes Abdelhamid. Est-ce que vous êtes préoccupé, optimiste?
On est surtout frustré parce que, comme vous l'avez dit, à Reims, on a la Coupe d'Europe, c'est vraiment un souvenir que pour les très anciens, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et on aurait souhaité offrir à notre public et dans notre magnifique stade une affiche où, à coup sûr, on l'aurait fait à guichet fermé. Donc c'est d'abord la frustration par rapport à nos supporters, et puis par contre, en ce qui concerne notre état d'esprit, bon, on n'a pas plus de pression que ça. On sait que l'équipe, traditionnellement, par le passé, a toujours répondu présent dans les grands événements. Parce que je rappelle, par exemple, que l'année dernière, on a gagné contre tous les clubs qui sont cette année qualifiés pour la Champions League, ce qui veut dire que...
Notamment le Paris Saint-Germain, ici au Parc des Princes.
Par exemple, mais on est aussi les gagnés au Vélodrome à Marseille. Donc, vous voyez, comme ça, on les met à égalité. Rennes, on l'a fait aller au retour. Mais bon, non, mais c'est juste pour dire que cette équipe méritait d'être sur l'Europe. Et demain, on fera tout ce qu'il faut pour que les Rémois et les amoureux du Stade de Reims soient fiers de nos couleurs. Alors, vous l'avez signalé, avec cette satanée maladie, notre capitaine est à une journée près par rapport à la période où il doit être en retraite, ne pourra pas être avec nous.
Il a été positif au Covid.
Il a été positif, mais comme beaucoup de personnes, sont inquiétantes, et d'ailleurs, il jouera à Metz dès dimanche, que vous l'avez dit ce matin avant de partir.
Avez-vous l'ambition, vous me disiez que vous ne rêviez pas évidemment retrouver l'Europe par la Ligue des Champions, est-ce que vous avez l'ambition pour votre club d'être par exemple le FC Séville?
Bah écoutez, c'est un bel exemple parce que c'est un club qu'on a suivi de près puisque Grégor Krikoviak qui était chez nous avait été transféré au FC Séville il y a quelques années, donc si on pouvait faire aussi bien qu'eux, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop en besogne. Vous l'avez dit, on a mis un certain temps à reconstruire le club, on est assez fiers de ce qu'on en a fait, mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de nous pérenniser dans la Ligue 1, et puis ensuite, chaque fois qu'on pourra monter dans le bon wagon de l'Europe, on s'en privera pas, mais c'est pas une pression sur les épaules de notre staff et de notre...
Jean-Pierre Caillot, une question encore avant peut-être que mes camarades vous en posent une. Le stade de Reims, dans ses plus belles années, jouait donc. Il a d'ailleurs laissé des choses au football, puisqu'on parle du corner à la Rémoise. Hein, donc de ses belles années, il en reste quelque chose. Mais il a aussi joué deux fois en 56 et en 59 une finale contre le Real Madrid. Je vais vous provoquer un peu, mais pourquoi le stade de Reims n'est pas devenu le Real Madrid de France?
Écoutez, le Real de Madrid qui nous a reçus depuis a toujours eu l'élégance de rappeler que le Real de Madrid a eu le parcours qu'ils ont eu. Était aussi en partie parce qu'ils avaient gagné la première finale contre le Stade de Reims, parce que sinon ils n'étaient pas qualifiés pour la deuxième Coupe d'Europe. Bah, écoutez, ça fait partie de l'histoire des clubs. Vous imaginez bien que j'étais même pas né à cette époque-là, donc je ne vais pas faire une analyse. Mais voilà, ça fait partie de la vie des clubs. Et par contre, souvent on l'a dit, c'est une phrase un peu bateau, mais tellement vraie. Les gens ne meurent jamais, puisque ce club était un grand club, comme vous l'avez rappelé, à la fin des années 50, aujourd'hui reconstruit et fait bonne figure dans le championnat français.
Oui, et de temps à autre, on sait que vous retrouvez justement l'été, c'était souvent ça, en tout cas, le Real Madrid en match amical. Xavier Barret.
Oui, président, bonjour. Vous aviez 2 ans, je crois, lors de la dernière apparition européenne du Stade de Reims. Alors dites-moi, comment est-ce que les joueurs au club peuvent réaliser ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent leur parler de ça, de cette époque où le Stade de Reims jouait une finale de Ligue des Champions, enfin même deux d'ailleurs. Et est-ce qu'ils réalisent, eux qui ont entre 20 et 30 ans pour la majorité, est-ce qu'ils réalisent l'événement qui est en train de se passer?
Ouais, évidemment, si moi j'avais 2 ans, on ne parle même pas où ils étaient. Par contre, vous savez que notre magnifique centre de formation s'appelle Raymond Coppa. Il y a un certain nombre de nos joueurs qui sont dans l'équipe première, qui sont issus de la formation, donc qui qui vivent dans ce centre de formation, qui ont eu pour certains la chance de participer à l'inauguration de ce centre qui a eu lieu il y a 6 ans. Donc effectivement, ils entendent parler. Bon, après, on a maintenant dans notre effectif un certain nombre de joueurs étrangers, donc je ne vais pas vous cacher qu'ils ne viennent pas par rapport à notre histoire, ils viennent surtout par rapport à ce qu'on représente pour l'avenir et par rapport aux installations qu'on peut leur mettre à disposition. Après, qu'on vous êtes rémois, c'est une ville de province, donc automatiquement, tout le monde vous parle du Stade de Reims et tout le monde vous dit, fait allusion à quelqu'un dans son passé qui l'a emmené au stade ou qui lui a parlé de notre grande équipe et de nos stars et de nos grandes idoles. Et on l'a fait au fil des années, vous l'avez dit, on a été invité 2 fois au Real de Madrid. À chaque fois, on est parti avec des anciens joueurs. Malheureusement, la plupart aujourd'hui seront demain dans les étoiles pour nous regarder, puisqu'on a perdu beaucoup des anciens de ces finales-là ces dernières années. Mais beaucoup de gens, effectivement, parlent de ces époques. Et quand vous êtes joueur du Stade de Reims, c'est pas anodin. Vous êtes obligé d'être conscient que c'est un club avec une vraie histoire.
Hervé Penaud.
Oui, c'est ça. Oui, je vais prolonger effectivement une vraie histoire, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en France, nos auditeurs se rendent peut-être pas complètement compte de l'impact qu'a eu le Stade de Reims, mais c'est un club mythique, c'est un immense club.
Et sur leur mémoire de leurs parents ou de leurs parents.
Bien sûr. L'histoire, c'est aussi la transmission, l'histoire du football, l'histoire du sport, c'est la transmission. Mmh. Et la transmission de quoi? La transmission des émotions. Et c'est vrai que le Stade de Reims, c'est un club à émotions, qui avait des immenses joueurs. Et justement, alors, sur ce plan-là, est-ce que vous, dans votre jeunesse, vous étiez aussi un fanatique du club? Est-ce que ça a été transmis par votre père, par exemple, ou votre mère, peut-être,
hein? On parle même si peu de gens le savent, mais l'origine du football féminin est quand même dans les années 70.
Si, au Stade de Reims.
Là aussi lié au Stade de Reims, donc vous avez raison de signaler que les dames s'intéressaient déjà au football à Reims. Non, moi, en fait, c'est un peu différent, parce que ma génération à moi, ça correspond plutôt à la deuxième grande période du Stade de Reims, c'est-à-dire celle de Lionis, Carlos Bianchi et des frères Lech. Et c'est en allant voir mes idoles que m'est venue cette vocation, parce que aujourd'hui dans le football, il y a un certain nombre de styles de présidents. Moi, je suis typiquement un président né à Reims, amoureux de son club, passionné, et d'abord son premier supporter avant d'en devenir son dirigeant principal.
Et bien justement, Jean-Pierre Caillon, on vous réservait cette surprise. On a un ancien joueur du Stade de Reims qui est en direct avec nous. Il se trouve qu'en plus, c'est un invité, un consultant, souvent, de Radio Foot International. Il est très très loin. Est-ce que vous voulez parler, cher ancien joueur du Stade de Reims?
Bonsoir à tous, à la table. Monsieur Caillon, enchanté. Je suis à 12 000 km, confiné, mais en attendant le match de demain, avec la même émotion que vous devez avoir.
Monsieur Caillon, vous avez deviné.
Et évidemment, je lui ai d'ailleurs, ça a été un de mes grands privilèges de ma présidence, et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit... Et moi, je considère que ma présidence, c'est une vocation à la tête de cette institution. Et si cette vocation est née, c'est parce que j'allais vous admirer quand j'étais dans les tribunes, que j'étais gamin et que vous me faisiez rêver.
Voilà, Carlos Bianchi qui est en direct avec nous depuis l'Argentine. Avant qu'on vous libère, Philippe Doucet a un petit mot à vous dire, Jean-Pierre Caillot.
Oui, un petit mot sur le futur, parce qu'on a beaucoup parlé du passé à juste titre. Mais est-ce que dans votre idée, le football de l'après-Covid, finalement, avec peut-être des finances revues dans des proportions un peu plus raisonnables, un football un petit peu modifié, est-ce que ça laisse la place à un Stade de Reims ou des clubs de cette taille-là, en tout cas, qui peuvent avoir plus d'espoir en l'avenir pour figurer à des meilleurs rangs? Est-ce que vous imaginez une nouvelle période du football venir?
Moi, j'imagine pas spécialement une nouvelle période, parce qu'on sait que les gens prennent souvent des décisions à l'instant T et ensuite ne s'y tiennent pas. Moi, j'ai une autre vision. Vous savez, on est un club qui s'est reconstruit, qui a souvent été cité en exemple à la DNCG, tout en étant avec un actionnariat régional et avec les moyens qu'on peut avoir en étant la 12e ville de France. Nous, on travaille, je pense, et c'est assez reconnu unanimement, assez bien, que ce soit dans la formation, que ce soit notre équipe de recrutement qui va chercher des joueurs à des endroits assez improbables et qu'on découvre après. Donc nous, on est convaincus qu'il y a la place pour un club comme le Stade de Reims. C'est une question qui m'a beaucoup été posée ces derniers temps, non pas à cause du Covid, mais à cause de tous ces fonds de placement, à cause des États, des différents États qui sont amenés, ou ces milliardaires qui sont amenés à investir dans le football français. Et bah, écoutez, si on doit être l'un des derniers et à se défendre avec nos valeurs régionales, ça nous va bien d'être la caractéristique du foot français.
Merci beaucoup Jean-Pierre Caillot d'avoir été en direct dans Radio Foot International avec nous. Et eh bien, on vous dit tous, hein, j'imagine, bonne chance. Voilà. Et vous avez même eu un bonne chance de 12 000 km de là.
En d'autres termes, même en d'autres termes qu'on ne dévoilera pas à la radio.
Ouais, ouais, on a envie de vous voir au tour suivant, à Reims d'ailleurs.
J'embrasse Monsieur Bianchi en tout cas, puis vous aussi.
Merci oui, il est toujours là.
Bonne chance pour demain et je vous souhaite un bon match. Je pense que des fois, les équipes jouent mieux à l'extérieur qu'à la maison.
Voilà, en plus, c'est quand même un peu faussé avec ce huis clos, mais bon, on va faire ce qu'il faut. Et en tout cas, je transmettrai à notre staff et à nos joueurs votre soutien, Monsieur Bianchi.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup, Jean-Pierre Caillot, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Carlos Bianchi, vous restez avec nous?
Comme vous voulez poser cette question, il n'y a aucun problème.
Oui, justement, Carlos, une petite question sur ce passé. Vous qui avez vécu alors les années 70 au stade de Reims, est-ce que vous le sentiez, ce passé? Ça faisait déjà une vingtaine d'années, mais est-ce que cette aventure européenne, on sait qu'il y a des photos dans le stade, dans la zone des vestiaires. Alors vous avez connu un autre stade. Est-ce que vous le sentiez, ce poids du passé glorieux?
Vous savez, je vais être sincère. Et moi, je ne connaissais pas beaucoup l'histoire du stade de Reims quand je suis arrivé à Reims. Mmh. Vous savez, le football d'Europe, à cette époque, c'était l'Europe. Et l'Amérique, c'était Pelé, Santos Football Club, des autres équipes. Et alors, quand je suis arrivé, je commençais à connaître la vraie histoire du stade de Reims. Et franchement, des fois, quand je me trouvais avec Raymond Coppa ou avec Fontaine ou avec Bob Jonquet, c'était un personnage, le capitaine de l'équipe, c'était un monsieur. Je me trouvais avec Paul Senibaldi, avec plein des anciens joueurs, et moi, c'était les messieurs. Franchement, j'avais un respect énorme, parce que quand j'ai connu l'histoire du Stade de Reims, franchement... c'était quelque chose de très grand,
d'incroyable.
Ça, c'est la réalité.
Xavier, je vous vois feuilleter un livre avec toutes ces belles années. Évidemment, le Stade de Reims, quand on s'intéresse un peu au football, on se souvient, on a tous écouté, en tout cas parlé de cette période. C'était une période où on n'avait pas les matchs à la télé en direct.
Si, justement, le premier match de championnat diffusé en France, c'était à Reims. C'était le Stade de Reims qui avait...
Oui, mais les matchs de Coupe d'Europe, on les avait pas. C'était différé, c'était... et c'était à la radio plutôt.
Exactement. Donc c'était effectivement une époque encore en noir et blanc, et donc on trouve cette période effectivement magique avec tous ces mystères qui l'entourent. Mais il faut savoir une chose quand même, c'est qu'à l'époque, le Stade de Reims, c'était l'un des clubs les plus riches de France. Tous les joueurs de l'équipe de France, s'ils voulaient faire carrière, et tous les joueurs français, s'ils voulaient faire carrière, notamment aller en équipe de France, ils allaient à Reims. L'attaque de l'équipe de France,
année 58,
voilà, l'équipe de France 58, sur les 5 attaquants, il y en a 4 qui jouent à Reims, dont Juste Fontaine et Raymond Coppa, bien sûr. Donc c'était à l'époque le club où il fallait être. Et il y avait le président Henri Germain, qui était un président un peu avant-gardiste, qui avait su attirer des investisseurs pour avoir beaucoup d'argent, pour offrir des salaires importants à ces joueurs. Et il faut rappeler une chose, c'est que Raymond Coppa, après la finale de la coupe des clubs champions en 1956, part au Real Madrid, signe un contrat de 4 ans.
Vendu très cher. Il est vendu 52 millions de francs de l'époque.
De l'époque, ce qui était une...
520 000 francs, oui, ça fait 80 000 euros, quoi.
Oui, mais à l'époque, mais c'était, c'était une somme colossale.
C'est bien. Les gens qui nous écoutent disent 80 000 euros, c'est un sacré joueur.
Mais justement, que les gens se rendent compte, c'est très bien.
C'était une somme colossale, et lorsqu'il est revenu 3 ans plus tard, avant la fin de son contrat au Real Madrid, les Madrilènes étaient fous furieux parce qu'il avait décidé de rentrer pour différentes raisons, et finalement, parce qu'à l'époque on traitait ça entre gentlemen, le Real l'a finalement laissé retourner à Reims, club avec lequel il a été à nouveau champion de France.
Exactement. Alors moi j'ai connu le stade Vélodrome de Reims parce que mon papa m'a emmené à l'époque découvrir le stade historique. Alors Carlos Bianchi y jouait encore. Ensuite, il est devenu entraîneur, c'est là que la première fois que j'ai tendu mon micro à Carlos Bianchi. Mais Carlos, écoutez ça, Laurent Salerno a fouillé un peu dans les archives et on a retrouvé un certain Léon Deménez. Et voilà ce qu'il disait en 1974 de son attaquant vedette.
Alors là, pour le définir, c'est un garçon qui a soif de but, qui a soif de jouer, il a une envie terrible de jouer, il est toujours là à fouiner près d'un but, même à l'entraînement, vous pouvez le remarquer, et quand il passe tout près du but, il tape dans le but, même s'il n'y a pas de gardien, il veut voir le ballon au fond des ficelles, et pour moi, je crois qu'il veut entendre le glissement du ballon sur le filet quand il pénètre dans le but. Hein. Alors, à côté de ça, il a d'énormes qualités techniques, hein, forcément, parce qu'il est efficace. Il sait faire le geste qu'il faut faire pour pouvoir être efficace. Et ça, c'est important. Hein, parce que quand on parle de la technique, moi, je dis, c'est égal à l'efficacité.
Si vous étiez sur le marché, là, Carlos Bianchi, tout le monde vous achèterait.
Oui, cette année-là, nous, on avait très bien démarré, vous savez. Nous, on était premiers quand nous avons joué, par malheur, un match pour les journalistes.
Et alors ?
Parce qu'au Parc des Princes, tous les ans, il y avait un match qui s'est joué pour les journalistes. Comme nous, on était premiers au championnat, ils ont fait jouer le Stade de Reims avec quelques joueurs du Paris Football Club, un match amical contre Barcelone au Parc des Princes. Et nous, on était premiers avec 2 points d'avance. Et je me suis cassé la jambe. J'avais marqué 12 buts en 10 matchs.
Eh oui.
Et vous savez que de temps en temps, il y a un record qu'il est battu. Mais il y a un record que ça va être très difficile de le battre. Cette année-là, 74-75, les 2 premières journées du championnat, en 2 journées, j'ai marqué 8 buts.
Ah oui, ouais, ça sera du rabat, oui. C'est effectivement,
ah,
Carlos.
Celui-là, vous ne la connaissez pas, mais...
Non.
Premier match, on va jouer à Lyon, on gagne 3-2, je marque 2 buts. 12e match, on joue contre Paris Saint-Germain, l'entraîneur c'était Justo Fontaine, il y avait Mustapha Dalev, il y avait François Mpelé, il y avait Jacquinovi, etc., etc. On les a battus 6-1 et j'ai marqué 6 buts. Ça veut dire qu'en 2 matchs, j'ai marqué 8 buts. J'attends quelqu'un qui le batte.
Hey, même Messi, on n'en est pas sûr.
En tout cas, merci beaucoup Carlos Bianchi d'avoir été avec nous dans Radio Foot International pour évoquer ces belles années du Stade de Reims. Et je sais que vous les suivez toujours à la loupe, donc vous allez les regarder demain et les encourager de loin.
Mais bien sûr, hein, mais bien sûr, bon. Allez le stade.
Et on vous attend, Carlos, ici dans notre studio, là. Quand est-ce qu'on vous libère?
Oui, au mois de mars, c'est pas avant, parce qu'en France, c'est pire qu'ici.
Ah bon.
On n'a pas l'impression.
Eh oui, il y a 10 000 tous les jours chez vous.
Non, 8 000 hier, ça baisse.
Il y a 10 000 contaminés tous les jours.
Ah ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Carlos, d'avoir été en direct avec
Annie,
nous.
Merci à la table. Hein.
Ah. Ciao, Carlos.
Ciao, Carlos. Luego, Carlos.
Salut.
On embrasse la table. Ah ben non, on n'a pas le droit.
À très bientôt. Philippe, tout à l'heure, vous disiez que peut-être que cette période pourrait favoriser des clubs qui ont des projets et des dimensions plus humaines. Est-ce que le Stade de Reims, pour vous, on se souvient l'année dernière, cette belle épopée. D'ailleurs, on a un document, c'est celui de la fois où ils battent le Stade de Reims.
Le PSG.
Le Stade de Reims bat le PSG. C'est
au Parc des Princes.
Au Parc des Princes, ouais. D'ailleurs, avec David Finzel, on s'était dit, tiens, on va aller faire un tour au parc.
Balle interceptée, heureusement par les joueurs de Reims, et l'arbitre siffle.
Les Rémois mènent ensuite des attaques de fort belle allure. Et ces attaques de Reims finissent par être payantes.
Ça coulisse parfaitement bien avec ce centre pour Dia. Dia, la reprise de Dia.
Oh, quel but ! Quelle action !
Et but façon Neymar ! Façon Neymar, mais pour Reims, pour Boulaye Dia, qui termine le boulot.
Alors voilà, c'était un savant mélange du passé et du présent. Philippe, c'est cette équipe, en même temps, on voit qu'elle est l'objet de beaucoup de convoitises.
En tout cas,
pour ce qui est de son effectif.
En tout cas, le mélange est amusant parce que vous savez que les très grands matchs de l'histoire du Stade de Reims en Coupe d'Europe se jouaient à Paris,
au Parc des Princes. Exactement.
L'ancien Parc des Princes,
bien sûr. Le match aller d'il y a
57
ans.
Parce que le stade de Reims était pas si grand que ça.
Plus prestigieux.
Et c'était plus prestigieux. Et puis surtout beaucoup plus de spectateurs.
Et puis, en fait,
c'était le club de la France, quoi. En gros, c'est le club de la France. Donc, on jouait à la capitale, on montait à la capitale, on jouait à Paris dans le vieux Parc des Princes qui avait aussi son Vélodrome, je vous rassure, Annie.
Oui,
comme tous les stades de l'époque.
Sinon, c'est un club qui... Oui, pardon.
D'ailleurs, quand ils jouaient contre le Racing, parce que c'était le Racing, le grand club de Paris à l'époque, souvent le public était très partagé quand ils jouaient contre le Racing à Paris, parce que Reims avait une image telle que les supporters parisiens soutenaient plus souvent le stade de Reims que le Racing.
Et alors bon, eux, ce sont des vieux combattants, on s'en rend bien compte. Moi, je suis dans la modernité, dans l'actualité, et je peux vous dire que beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui en Afrique suivent le stade de Reims avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains en Afrique. Vous avez par exemple des joueurs maliens.
On Bilal, a eu par Alexis exemple, Romao récemment, qui était capitaine même.
Conan, le latéral ivoirien. Vous avez des joueurs maliens. C'est un club aujourd'hui qui a aussi intégré beaucoup de joueurs. Oui, beaucoup de joueurs venus d'Afrique. Et j'attends d'ailleurs un joueur comme El Bilal, voir un peu ce qu'il va donner. Ce qu'il va donner, c'est un jeune joueur qui est très très prometteur. Il sera peut-être le futur avant-centre de l'équipe du Mali. Donc beaucoup de joueurs à suivre de très près.
Et moi, j'espère que cette équipe de Reims va marquer à Genève. Et surtout, faut réaliser que celui qui va marquer le premier but, et j'espère qu'il y en aura beaucoup
européen.
Pour le stade de Reims, il s'inscrira sur une liste où vous avez Juste Fontaine, 10 buts européens, où vous avez Piantoni avec 7, Bliard, Jean-Vincent avec 6, Glovaski et Raymond Coppa. Vous voyez, donc les gars.
Michel Hidalgo
en avait marqué. Hein,
il a marqué en finale de la Coupe
on
de 56.
On avait parlé il y a quelques années avec Michel Hidalgo,
incroyable.
Un été où il y avait ces rencontres historiques entre le stade de Reims et Real Madrid et où certains anciens pouvaient encore comparaître.
Mais même Jean-Pierre Caillot peut le rappeler parce que je crois qu'il y a je sais pas combien, 5-6 ans peut-être, le Real a fait un tournoi d'avant-saison et a invité le stade de Reims.
Il y a un lien
il y a un lien historique, même si évidemment le Real Madrid est devenu tout à fait autre chose que stade de Reims. On en convient.
Alors le stade de Reims deviendra-t-il un jour le Real, Philippe?
Non, mais la question que je posais à Jean-Pierre Caillot, c'était un peu ça. Est-ce qu'un club qui a dimension normale, si j'ose dire, avec des fonds normaux et des moyens normaux, peut encore exister? On le verra dans le futur. On a la place du gigantisme. Aujourd'hui, le gigantisme a envahi
dans
le football.
Dans
tout le domaine, d'ailleurs. Il n'y a pas que le football, bien évidemment. Mais du coup, on s'interroge, est-ce que des clubs qui travaillent bien, parce que Reims, c'est un club qui travaille très bien, a une chance sur la durée, finalement, d'être régulièrement, alors si ce n'est champion, bien sûr, mais enfin régulièrement dans les bonnes équipes.
Champion, ça devrait être compliqué, effectivement.
Ils sont moins dépendants, effectivement, des investisseurs étrangers, puisque c'est un club qui s'appuie sur des petits capitaux locaux. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que parmi leurs soutiens, il y a les grandes maisons de champagne et qu'elles aussi pâtissent actuellement de la crise générale. Donc ils ne sont pas à l'abri complètement.
Donc le message qu'on envoie aux gens, c'est buvez.
Buvez du champagne.
Buvez pour relancer Reims.
Non, avec modération, c'est
mais
ça.
Oui,
en
avec
général,
modération,
ça va
bien sûr.
Il faut d'ailleurs pas se méprendre. Si le Stade de Reims a été un grand club à cette époque-là, c'était absolument pas grâce au champagne. À part que le président Germain était quand même dans le champagne, mais il n'y a jamais eu de soutien massif.
Non.
Faut pas imaginer du tout que les caves de champagne ont financé à flot.
Ils ne boivent pas. Non,
à flot continu, à bulle continu. Le Stade de Reims, c'est pas du tout le cas.
On suivra à la loupe. En tout cas, ce match, c'est demain soir à Genève. 20h45.
Autre grand ancien, Servette, qui revient en Coupe d'Europe après 6 ans d'absence et qui est un ancien grand club, mais enfin qui avait soigneusement disparu. Ils ont même été jusqu'en Détroit.
Ça, je pense qu'il faut écouter la radio suisse et qu'eux, ils vous diront ce que nous, on vous a raconté sur le stade de Reims. Allez, on continue et on va aller du côté de Montpellier, si vous voulez bien, Hervé, non?
Savanier et Lopez s'effondrent au sol. TJ la frappe, le but. But de Denis Savanier. Savanier. Oh, quel but de TJ Savanier. Magnifique.
Confrère de Radio France du côté de Montpellier.
Oui, mais j'étais assez loin de lui, je ne me suis pas rendu compte qu'il parlait comme ça.
Alors après une large victoire sur Dijon, on parle évidemment de l'Olympique Lyonnais. Après un nul à Bordeaux, l'Olympique Lyonnais a donc enregistré hier soir sa première défaite de la saison à Montpellier 2-1. Ce n'était que la troisième journée. Ils vont recevoir bientôt Nîmes. Mais peut-on parler... Qu'est-ce qu'on vous diriez ? Faux pas ? Contre-performance ? Qu'est-ce que vous diriez, Hervé Penon ?
Oui, contre-performance, je trouve que ça va bien. Surtout pas de crise, évidemment, parce que là, on serait dans un délire absolu. C'est quand même une équipe qui a fait demi-finale Ligue des Champions. Mais c'est vrai que depuis le retour de ce fameux Final Eight, ils ont quand même beaucoup de difficultés offensives, notamment.
Et il y a un comme manque le PSG, de jeu, alors, finalement.
Peut-être que ça peut jouer, hein, parce qu'il faut pas oublier quand même d'avoir vécu ce Final 8 et dans un mode Coupe du Monde, c'est-à-dire les joueurs les uns avec les autres pendant 10 jours, 15 jours. Quand ça se termine, bah, vous savez, c'est comme les jeunes qui sortent d'une colonie de vacances.
Et d'autant plus s'enfermer à cause de la pandémie, donc vraiment
tout
ensemble.
À fait. Donc, à un moment, il y a comme, je sais pas, une forme de libération et puis après se reconcentrer pour un nouvel événement, c'est pas si évident que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce Lyon-là, qui a du potentiel, qu'on croyait même venir, alors je dis pas titiller le Paris Saint-Germain, mais ça pouvait être un bon outsider pour rester dans les 5, 6, 7 points du Paris Saint-Germain.
Ils sont devant au classement.
Oui, ils sont devant. On en reparlera dans 36 jours, 35 journées. Ce sera peut-être pas le même résultat. Mais on s'était dit, il y a quelque chose à faire. Le problème de ce Lyon aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas quels seront les joueurs le 5 octobre. Donc déjà, ça change tout. Ça, y aura-t-il Depay, y aura-t-il Aouar, Dembélé, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai problème pour Rudy Garcia. Et à lui maintenant, après avoir eu un Final 8, il a joué des adversaires largement plus forts. Donc ils étaient plus sur la défensive, j'allais dire, dans un jeu un peu de contre, avec une capacité de fermer les espaces et puis après de jouer un petit peu moins, mais de jouer sur des coups un peu plus sûrs. Là, il faut faire du jeu. Et là, comme l'année dernière, c'est un peu plus difficile pour eux de faire du jeu. Collectivement, il y a de vrais déchets.
D'autant que, Philippe, le but, clairement, c'est de retrouver l'Europe l'année prochaine. Et c'est ça aussi
la Ligue des Champions.
Ligue
des Champions.
Pardon, oui.
Économiquement, un club comme Lyon...
C'est pas que la Ligue Europe,
économiquement, un club comme Lyon a besoin de faire la Ligue des Champions... Deux années sur trois, globalement, peut-être.
Bon, oui, de par sa dimension, son stade, son statut.
Ils peuvent avoir un accident à un moment ou à un autre. Ils ont gagné aussi, en étant demi-finalistes, un certain nombre de subsides qui vont compenser en partie l'absence européenne cette année. Mais la logique, évidemment, et surtout dans une année où ils n'auront rien d'autre à faire à part une Coupe de France. Ils n'auront strictement rien d'autre à faire que le jeu
de
championnat. Évidemment, ils vont être attendus à chaque instant et dès le début de ce championnat. La preuve, c'est que vous faites déjà l'événement sur la première défaite de Lyon, alors que bon, c'est pas, il n'y a rien de dramatique encore.
Philippe, on se souvient.
C'était un test intéressant hier parce que Montpellier, c'est une bonne équipe.
Mais
et donc, ils ont pas été capables de résister à Montpellier, qui a très bien joué, c'est vrai. Et surtout, moi, je partage l'avis d'Hervé. J'ai été très frustré de voir que finalement Memphis est rentré à la 54e minute. Il y avait également sur le banc le petit Cherki qui est rentré en fin de match, Moussa Dembélé qui rentre alors que l'équipe est réduite à 10 depuis l'expulsion d'Oussem Aouar en fin de première période et qu'elle est déjà menée 2-0. Mais franchement, quel intérêt avait Rudy Garcia à laisser ses attaquants sur le banc alors que c'était Lyon qui faisait le jeu, enfin devait le faire en tout cas, et qui à l'arrivée a eu la possession et la majorité de la possession. La réponse est qu'il faut qu'il arrête de jouer avec cette défense à 5 et qu'il passe, comme il l'a fait en fin de match d'ailleurs, à une défense à 4 et qu'il mette un attaquant de plus. C'est franchement incompréhensible qu'une équipe qui a un tel potentiel offensif ne l'utilise pas.
Alors peut-être que les incertitudes aussi autour de cette équipe, et vous y faisiez allusion tous les deux, Philippe et Hervé aussi.
J'aurais répondu à cette interrogation.
Allez-y.
Non, oui, parce que le problème de cette équipe de Lyon, c'est une équipe qui n'avait pas d'équilibre. Donc ils l'ont trouvé cet équilibre jouant avec une défense à 3, plus 4 ou 5 joueurs au milieu de terrain, 2 ou 3 attaquants. Ça, c'est ce qui leur a permis de faire ce Final 8 et ce qui leur a permis de faire un début de saison, logiquement, donc contre Dijon dans le jeu, qui pouvait être intéressant. Et donc, il est resté collé à ça, parce qu'il n'allait pas changer quelque chose qui fonctionnait, ou alors il n'y a aucune logique. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, ils sont passés à 4 derrière. Il a remonté de Neyer, il a tenté quelque chose. Après, le problème, le but, c'était pas d'empiler des attaquants pour enlever des défenseurs, parce que là, déjà qu'ils étaient à 10, ils auraient été en difficulté.
Mais avec cette configuration, si tu fais jouer de Neyer au milieu, ça n'a aucun sens.
Mais il l'a ressorti après.
Oui,
donc,
évidemment.
Ce qui s'est passé, quand même, c'est que sur la fin de match, parce qu'ils n'ont pas été bons, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais sur les 15-20 dernières minutes, là, ils ont été beaucoup plus intéressants, parce que même à 10 contre 11, ils reviennent à 2-1, et je pense qu'il y avait possibilité de mettre l'égalisation. Le problème, c'est qu'il y a un vrai problème collectif dans cette équipe sur les déplacements, entre les passeurs qui ne voient jamais les attaquants faire les bons appels. Et ça devient compliqué après de se créer des occasions.
Ils ont mieux joué en fin de match à 10 que pendant les deux tiers du match à 11.
Alors en plus,
ils étaient la moitié du match.
Il y a le contexte. ce mercato qui va durer jusqu'au 5 octobre. Et effectivement, les joueurs avaient-ils la tête ailleurs ou pas, ou pour certains hier, en tout cas, ils ont tous sûrement entendu les propos de leur directeur sportif juste en sortie après l'élimination de la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Et quel que soit l'enjeu, les joueurs, c'est ce que leur disait Juninho théoriquement, doivent rester motivés.
Le but maintenant, c'est continuer le travail. T'es payé, t'es bien payé. La motivation, c'est de vivre déjà. La motivation, c'est tous les joueurs qui sont là. C'était un rêve d'être joueur pro. Et on doit respecter, que ça soit Nîmes, Bastia, pareil comme le Bayern. Se concentrer sur le travail, maintenir ça. Il y a maintenant une base. Normalement, comme je dis, il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Et le but, pour tous les joueurs, ils sont au courant déjà. C'est retrouver la Champions League la saison prochaine.
Alors Philippe, on a l'impression d'avoir là la théorie, puis après il y a la pratique, c'est-à-dire un joueur, savoir s'il part, s'il reste, un entraîneur qui ne sait pas effectivement déjà quel effectif il a alors que le championnat court, tout ça, ça complique.
Non mais bien sûr, à partir du moment où il y a eu cette aventure de la Ligue des Champions, il y avait des lendemains forcément difficiles.
Et on a vu une équipe en osmose en plus à ce moment-là.
Il se passe quelque chose d'absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'on commence le championnat le 23 août et en fait jusqu'au 5 octobre, on ne sait pas quel effectif on va avoir, c'est inédit. Jamais on a fait un mois et demi de championnat.
Tout est inédit.
Jamais, exactement.
Philippe.
Jamais on a fait un mois et demi de championnat en se disant ah bah oui mais peut-être qu'il peut jouer, ah bah non peut-être pas. Voilà et en plus on joue tous les trois jours, on enchaîne les matchs, etc. Bon voilà il y a des circonstances un petit peu particulières et des circonstances qui font que Hervé le rappelait en filigrane tout à l'heure. Comment pouvait-on imaginer que Lyon, qui a eu des problèmes collectifs toute la saison dernière, qui a un mal de chien à stabiliser cette équipe à peu près correctement, comment imaginer que parce qu'ils avaient battu sur un match Manchester City, tout d'un coup, forcément, il n'y avait plus aucun problème ils allaient éclater tout le monde. La Juve, ils n'ont pas battu. Enfin, ils l'ont battu en mars, pas en juin. Et bref, il faut pas connaître le football pour raisonner comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Bien évidemment, on n'est pas totalement surpris de retrouver une équipe pas géniale et qui va devoir à nouveau retravailler tout pour enfin arriver à trouver une des vertus collectives qu'ils ont beaucoup de mal à tirer de cette équipe.
Surtout qu'il y a déjà des éléments qui sont partis quand même. Hervé, on cherchait tout à l'heure, donc il y a Touzard qui est parti.
Et alors lui, c'était départs déjà.
Mais notamment, je pensais à des titulaires ou à ceux qui étaient plus souvent présents. Raphaël, Marçal, derrière, ça, c'est ça.
Non, mais ça, le vrai problème, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de jouer avec une défense à 3.
Oui.
Et malheureusement, parce que le problème, c'est que c'est porte ouverte à Lyon. Il faut de l'argent. Donc, le premier qui vient avec une offre, quasiment.
Faut partir. Pas pour rentrer.
Pour rentrer, ils aimeraient bien, mais il faut déjà rentrer de l'argent pour rentrer les joueurs. Et alors, ils ont perdu. Ils avaient décidé de faire cette nouvelle défense à 3. Ils ont perdu Marçal, qui était l'axe gauche de la défense à 3. Ils ont perdu Tété, qui était une option en axe droit de la défense à 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Lyon, vous avez 3 défenseurs centraux pour une défense à 3. C'est impossible. Ça n'existe pas. Vous avez Diomandé, un jeune joueur ivoirien qui vient du Mali, qui est là. Mais enfin, on ne sait pas ce qu'il vaut. Un Turc qu'ils ont acheté, qui joue des deux Turcs, un jeune joueur, c'est pareil. Et alors, interrogation. Quand vous aurez des blessures, des suspensions, Marcelo sera de toute façon suspendu bientôt. Andersen, qui appelle aujourd'hui, qui est encore en difficulté, parce que c'est quand même un des gros achats de l'année dernière. Et pour l'instant, c'est une erreur de casting terrible. Et ben, vous avez une équipe qui maintenant va rechercher des équilibres. Et alors, cette défense à 3 qui fonctionnait entre Marçal, Denayer et Marcelo, aujourd'hui il va falloir rechercher quelque chose, c'est le boulot de l'entraîneur évidemment, mais c'est pas toujours facile quand vous avez des matchs tous les 3 jours avec des entraînements bizarres, avec l'histoire du Covid, faut jamais l'oublier, parce que quand vous faites des tests Covid vous pouvez pas véritablement vous entraîner, il faut attendre les résultats, donc vous voyez, ils en font tout le temps.
Alors maintenant ça dure que 8 jours, mais Xavier sur les départs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aouar, théoriquement, va partir. Depay, peut-être.
On parle d'Aouar, Depay, Dembélé qui sont convoités.
Reine Adélaïde aussi. Alors, je viens et je repars, lui.
Lui, c'est plutôt. Moi, c'est de tous les joueurs qu'on a cités là, celui que je verrais partir en premier, c'est Reine Adélaïde. Pas parce qu'il voulait qu'il parte, mais parce qu'il a une offre. C'est aussi simple que ça. Memphis, il n'y a pas d'offre. Aouar, il n'y a pas d'offre. Et Dembélé, pas d'offre. Dembélé, il ne veut pas partir dans un petit club, d'après ce qu'on me dit. Donc, logiquement, il restera, parce qu'il n'aura pas de gros club. Et lui, dans son esprit, dans sa progression de carrière, il n'était pas question d'aller à Norwich ou à Bournemouth, parce qu'à la rigueur, il pourrait trouver ça.
Celtic,
ça. Je pense qu'il
n'aurait
pas de soucis. Memphis Depay, il veut aller à Barcelone. Koeman le veut. Le problème, il n'y a pas d'argent à Barcelone. Alors, est-ce qu'ils font ça pour qu'au dernier moment, ils donnent une offre à Lyon? Ils feront peut-être que 10 millions d'euros. Sait-on jamais, c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Et Lyon, on sait qu'elle laissera partir.
Rennes,
qui est prêt à mettre plus de 20 millions d'euros. Donc, comme il veut partir, en plus, il a exprimé son souhait de partir. Alors qu'Aouar veut partir. Mais lui, Aouar, ça ferait partie des gros transferts européens de l'année. Et aujourd'hui,
Il n'y a pas de club qui sont capables de mettre 60-70 millions.
Bah, c'est ça. Xavier.
Même s'ils l'aiment bien.
Oui. Non, il y a déjà eu 9 départs, oui, on en a cité un certain nombre, mais oui. Martin Terrier qui est parti à Rennes, le petit Guiri à Nice, Touzard donc au Hertha Berlin, le transfert était déjà signé l'hiver dernier, mais il était resté prêté à Lyon, Tété à Fulham, le jeune Oumar Solé qui est très bon, qui est parti à Salzbourg, donc même les jeunes qui ont du talent et qui ont un avenir, ils les vendent. Donc effectivement, bon, alors, je crois que...
Il y a encore un problème de comportement, compliqué, il valait mieux prendre l'argent de Salzbourg, il sera peut-être bon à Salzbourg, il verra bien, mais c'est ingérable à Lyon.
Mais donc il y a pour le moment effectivement une priorité à rééquilibrer les comptes à Lyon suite aux pertes d'argent ces dernières semaines.
Et puis il y a une autre priorité, c'est que vous n'avez que 45 matchs à jouer cette saison maximum. Tout est là. Si vous allez en finale de la Coupe, vous jouez 45 matchs. Mmh. Bon vous n'avez pas besoin de 30 joueurs pour jouer 45 matchs.
Le problème, c'est qu'il y a des postes où on fait pas de turnover. Des défenseurs centraux, vous n'allez pas leur dire tiens, cette année tu vas faire 24 matchs de championnat, tu es le bon titulaire, il va dire les 14 autres, tu regarderas. C'est pas possible.
Il y a le deuxième gardien aussi qui est parti,
Tatarusanu à Milan, Fabio Başakşehir, il y a eu des départs.
Alors un cas à part, sorti des suppositions maintenant, c'est Bertrand Traoré, l'international burkinabé, qui quittera donc l'OL, comme l'a dit Rudy Garcia il y a deux jours, il a dit il part. Écoutons Bertrand Traoré. Alors en tout cas, lui, il était récemment dans son pays et notre correspondant Ouagadougou, Gabriel Barroy, l'avait interrogé et il évoque plutôt ses états d'âme.
C'est pour vider un peu ma tête. Depuis le début de la saison, depuis juin, on parle que de Bertrand par-ci, Bertrand par-là. Il a des envies de départ. Lyon ne veut plus garder Bertrand. Bertrand est indésirable à Lyon. Voilà, le coach, dès le début, c'était clair. Quand il est arrivé, il m'a mis deux matchs de suite sur le banc. Et le troisième, j'étais dans les tribunes. Et voilà, je pense que le message était assez clair. Et voilà, il a ses préférences, il fait ses choix. Moi, je respecte, je travaille. Je suis resté 3 ans à Lyon. J'ai passé 2 belles années. La troisième a été un peu plus compliquée, mais voilà, ça fait partie de la vie d'un footballeur professionnel. Maintenant, il me reste 2 années de contrat. Moi, j'ai 25 ans aujourd'hui. J'ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J'ai besoin de jouer, j'ai pas de temps à perdre. Je suis plus un jeune de 18, 19, 20 ans. Voilà, il faut enchaîner. Moi, je suis un footballeur professionnel et voilà.
Et voilà, il veut jouer Bertrand Traoré. C'est pour ça que lui, il dit carrément, j'ai compris, il faut que je parte.
Oui, mais il a tout à fait raison, parce qu'on se rend bien compte que l'histoire est terminée entre Lyon et Bertrand Traoré. C'est un peu triste d'ailleurs, parce que moi, c'est un joueur que j'adore. C'est, comme il le dit là, c'est un super...
34 buts.
Oui, super mentalité, parce que franchement, des joueurs qui ont été mis de côté comme ça... Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu les performances qu'on pouvait espérer, évidemment, mais qui a été mis de côté, il n'a jamais rien dit, il s'est jamais plaint. D'ailleurs, son interview est super, c'est pas du tout quelqu'un d'aigri. Puisque on peut pas fonctionner comme ça. Alors il n'a jamais été utilisé non plus dans le poste où il aurait aimé. S'il l'a été une seule fois, c'était dans la fin de saison, ça devait être la première année. Il était avec Memphis Depay. Là, il vous fait une fin de saison incroyable. Il met 6 ou 7 buts. Il a perdu sa confiance. Le public a été absolument incroyable avec lui, mais comme avec beaucoup de joueurs à Lyon, c'était totalement ridicule.
Odieux.
Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui fait qu'à un moment, il a perdu la confiance. Et quand un joueur perd de la confiance, c'est compliqué. Mais c'est vraiment, moi ça me rend triste parce que je pense que c'est vraiment un super mec. C'est un joueur très ultra talentueux.
Et écoutez, c'est dommage parce que voilà ce que disait Rudy Garcia au moment où il arrive. C'était juste avant le premier match de Rudy Garcia à Toulouse avec l'équipe de Lyon.
Je pense que c'est l'un des meilleurs de l'effectif. Il m'a fait tellement de misère quand j'ai joué contre lui. C'est ce que je lui ai dit, que j'attends beaucoup plus de lui. Mais franchement, il a bien reçu le message. Je pense que sur la semaine, je pense que ça a été le meilleur joueur à l'entraînement.
Philippe, pourquoi finalement ça s'est pas fait, cette rencontre finalement entre cet entraîneur et ce joueur?
Je crois qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un club où il y a un peu de patience, où on peut continuer d'aligner un joueur 5, 6,
non,
7 matchs? Ça n'existe plus. Aujourd'hui, même Lyon, même des clubs où avant qu'on pouvait considérer que c'était un peu plus tranquille, c'était pas PSG ou Marseille où il y avait une pression terrible, on avait l'impression que là on pouvait insister sur un joueur. Et puis il y a un moment où ça marche pas, il y a un moment où le public vous fait comprendre qu'il l'aime pas, du coup l'entraîneur est obligé d'en tenir compte parce que sinon c'est après sur lui que la pression va venir, et à l'arrivée vous finissez par dégommer des gens. Je pense que c'est ce qui est arrivé un peu à Bertrand. Bertrand Traoré n'a pas eu les performances attendues, c'est vrai, mais je pense qu'il y avait matière à insister, car je rejoins Hervé, c'est un joueur de grand talent. Il y avait matière à insister. Bon, on va croire que ce n'était pas possible d'aller plus loin et que l'histoire était finie.
Xavier, 25 ans, Aston Villa, si ça se faisait même à Aston Villa, c'est peut-être une belle opportunité pour rebondir.
Ah bah complètement, complètement. Aller jouer en Angleterre.
En plus, il connaît. Hein, il
faut pas oublier qu'il avait été, il avait été recruté à l'époque par Chelsea et Chelsea ne pouvait pas l'utiliser, donc il l'avait prêté au Vitesse Arnhem. Bon, ensuite
il est allé à l'Ajax. Il était prêté à l'Ajax. Que Lyon l'avait vu d'ailleurs.
Voilà, mais il était prêté et Lyon l'a racheté à Chelsea. Alors tous les joueurs qui viennent de Chelsea ont parce qu'ils avaient acheté énormément de joueurs, n'ont pas tous réussi, et notamment en France. Il y en a quelques-uns qui sont passés par la France. On se souvient de Karim Rekik à l'époque à Marseille. Enfin, il y a eu des joueurs, effectivement, bon, ben, ils n'ont pas réussi à se relancer. Lui, c'était plutôt bien parti, mais il n'a pas réussi à s'inscrire dans la durée. C'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui, la concurrence, elle est rude en attaque. Hein. Il y a Karl Toko Ekambi qui est arrivé de Villarreal. Il était prêté, il y a eu un transfert définitif. Il y a Moussa Dembélé qui est arrivé du Celtic. Il y a du monde devant. Donc, si vous n'êtes pas à Lyon aujourd'hui à un bon niveau de performance, forcément, vous trouver sur le banc.
Dommage, mais on le suivra évidemment, Bertrand Traoré.
Oui,
j'espère
qu'il va réussir.
On se souvient de son sélectionneur à l'époque, Paolo Duarte, qu'on avait rencontré à Ouagadougou et qui était vraiment émerveillé par le potentiel de ce joueur. Donc,
Parce que son problème, en fait, c'est que c'est un joueur qui devrait jouer, qui joue un peu à l'instinct et qui devrait prendre des risques. Et quand vous êtes perturbé, vous osez plus, et ben le geste, au lieu de faire le geste juste, ben, vous le faites pas complètement. Et puis, soit vous perdez des balles sur des remises intérieures qu'il faisait souvent, par exemple, parce que la perte de confiance, c'est quelque chose terrible pour un sportif de haut niveau. Alors maintenant, espérons qu'il se relance à Aston Villa et puis avec le Burkina, parce qu'on l'attend avec le Burkina aussi. C'est un élément clé de l'équipe du Burkina.
Oui, et d'ailleurs, les Burkinabés sont très attentifs et espéraient bien qu'il bougerait et qu'il partirait. Allez, un autre Africain sur la sellette avec, on dirait, un gros bras d'honneur.
Choupo-Moting, est-ce que c'est lui qui va donner la qualification au PSG, le Camerounais, et la joie de Thomas Touré?
Un renversement de situation invraisemblable, Marquinhos et l'improbable Choupo-Moting envoie Paris en demi-finale dans le dernier carré. Waouh!
C'est une histoire parfaite. 50 ans de Paris aujourd'hui et on est en demi-finale.
Choupo, l'improbable, hein, Choupo-Moting, disent-ils. En tout cas, c'était le joueur qui, effectivement, marquait à des moments clés. Philippe Doucet, le capitaine des Lions Indomptables, le sauveur, et qui, finalement, selon notre confrère Bruno Salomon, eh bien, préfère ne pas rester au Paris Saint-Germain parce que on lui propose pas ce qu'il veut.
Oui, moi, on peut comprendre aussi parce que c'est vrai qu'il a répété qu'il adore ce club, qu'il a vécu une très belle période et
il
autres.
Il était très patient lui aussi.
Qu'on peut entendre très bien et il a joué son rôle, il était aimé et tout ce que vous voulez, mais malgré tout, il joue pas beaucoup et il a 31 ans. Il est capitaine des Lions Indomptables et quand vous jouez pas aussi peu que cela,
il y a un moment
où ça peut devenir un véritable handicap pour la suite de sa carrière.
Apparemment, le PSG lui proposait qu'un an et à peu près même tarif, c'est-à-dire en étant numéro 2 ou 3, alors que lui, il aurait voulu 2 ans.
Il a tout à fait raison. C'est Choupo-Moting, c'est un joueur qui a du potentiel. Puis il faut arrêter de le faire passer pour une mascotte. C'est-à-dire que c'est un joueur de foot de très haut niveau. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il en avait peut-être un peu marre de dire tiens, je suis le mec sympa, tout le monde m'adore, je suis le mec super gentil, etc.
Mbappé,
je suis le mec qui a besoin de jouer au football, j'ai besoin d'avoir un bon contrat, signer peut-être 3 ans quelque part, il sera très heureux.
Xavier,
je lui souhaite, on verra s'il l'obtient. Faut quand même pas oublier que cette saison, il a fait des bouts de match avec le PSG. Effectivement, il contribue à la qualification pour la finale du club parisien en Ligue des Champions. Mais
il y a peut-être beaucoup de saisons, mais
on verra. Je lui souhaite à ce moment-là de trouver ce club qui va lui offrir 2 ou 3 ans de contrat, alors qu'il a déjà 31 ans.
Je pense qu'en Allemagne, il peut trouver sans aucun problème un club beaucoup plus moyen, bien sûr. Et on le reverra pas en Ligue des Champions, ça c'est sûr.
Eh ben, on essaiera de savoir où est-ce qu'il va. Eric Choupo-Moting.
Mais c'est pas Reims en tout cas.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à tous et on vous dit à demain.